vous m'en direz tant ?
J'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar, dans lequel les règles sanitaires résultant de la pandémie de Covid-19 étaient pérennisées à jamais. Soit que le virus reste à nous côtoyer sans remède sérieux, soit que d'autres agents pathogènes arrivent et pourquoi pas se cumulant avec l'actuel. Bref, nous restons à perpétuité masqués, hydroalcoolisés et distants les uns des autres. La première réflexion qui vient est que l'humanité va prendre plus de place. C'est idiot. La surface vivable de la Terre nous offre bien plus de place que nécessaire. La véritable question est plutôt de savoir combien de superficie est nécessaire pour nourrir chaque individu. Selon les uns, la Terre permettrait de nourrir 30 milliards d'êtres humains avec toute la pollution, les cancers, l'extinction des espèces, etc. D'autres estiment au contraire que nous ne devrions pas être plus de 300 millions afin de ne pas impacter de manière irréversible l'écosystème dans lequel nous vivons. La marge de manœuvre donne le tournis. Mais bon, ce ne sont là des spéculations tendancieuses qui sortent de toute manière de mon sujet. Alors, concrètement, comment vivrions-nous durablement avec les gestes barrières actuels ? Est-ce que ces exigences sanitaires seraient compatibles avec une vie économique suffisante ? Est-ce qu'on pourrait tout de même espérer être heureux ? Constatons que des pans entiers de l'activité économique n'ont pas souffert du confinement, même à son pic de rigueur. L'alimentation, tant la production que le commerce, n'ont pas été affectés. On s'est hâté de fermer les écoles, mais il n'est pas certain que cette mesure était absolument indispensable. La distanciation physique a porté un rude coup au transport en commun. Si l'on veut que leurs usagers y disposent de 4 mètres carrés, il faudrait allonger les trains de manière considérable, les trains et donc les quais de gare. On irait plutôt vers une vie active où le trajet travail-domicile ne serait plus journalier. Sans doute plus de télétravail. On a vu que c'était possible assez souvent. Sans doute plus de téléenseignement. Peut-être même plus de télémédecine. Peut-être moins d'hommes dans l'industrie et plus de machines. Donc moins d'emplois. Mais je vous ai dit que c'était un rêve. Plus de répartition des revenus. Ce qui pose le plus de problèmes semble être tout ce qui est spectacle, culturel ou sportif. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est ce qui reste le plus longtemps sous cloche. Mais là encore, des solutions existent. Déjà, le rugby à 15, où la mêlée devra impérativement être supprimée, va tout doucement être remplacée par le rugby à 7, qui offrira aux joueurs plus d'espace. Dans le même genre, le football commence à se jouer à 7 également, le basket à 3. Certes, l'avenir est sombre pour les sports de combat. On peut imaginer d'allonger les épées et les sabres pour l'escrime, mais rien à faire pour le judo ou la lutte gréco-romaine. Globalement, on peut faire du sport sans se toucher. La question reste celle des spectateurs, puisque le sport est aussi un spectacle. Moins de spectateurs, sans doute. Probablement 4 fois moins. Donc moins de revenus pour les sportifs professionnels. Sans doute autant de téléspectateurs, mais cette richesse ne peut profiter qu'à quelques-uns. On va assister à un Tour de France cycliste un peu particulier. Il se courra après la période des congés d'été, donc avec moins de spectateurs au bord des routes, puisqu'ils travailleront. Des routes parfois impraticables, car déjà un peu enneigées en haute montagne. Il est évident que suivre une étape du tour à la télé en continu est préférable que de se poster au bord de la route pour voir pendant quelques secondes passer un peloton à grande vitesse. Mais le public au bord des routes fait partie du spectacle et il voit d'ailleurs passer beaucoup d'autres choses que des coureurs. Les sponsors qui misent sur la publicité vont probablement y laisser des plumes. les amateurs de spectacles sportifs aiment à s'agglutiner pour en jouir. C'est la même chose pour les spectacles de manière plus générale. Quel intérêt d'assister à un concert de rock si on est distant les uns des autres ? Woodstock aurait-il existé avec les règles sanitaires actuelles ? On peut aimer le rock, mais le sommet du plaisir est bien de sentir, le mot n'est pas trop fort, qu'on est des milliers à aimer la même chose. Et pour les artistes, musiciens, acteurs ou même sportifs, qui sont devenus aussi des artistes, le public est une chose irremplaçable. Et pas un public clairsemé, un public qui doit être suffisamment cohérent pour réagir non pas comme une somme d'individus, mais comme une entité autre, supra-individuelle. Un cas intéressant est le cinéma. Les acteurs ne voient pas le public. Ils ne sont pas portés par lui, mais plutôt par l'appât du gain et de la notoriété. Certains acteurs d'un film ne se sont jamais rencontrés pendant le tournage. Rien n'est plus facile que de diffuser le résultat de manière à ce que chacun en profite chez lui. Pourtant, les cinéphiles vous diront que de se retrouver nombreux dans une salle est quelque chose d'incontournable. Les cinémas ont rouvert avec des distances de sécurité entre les spectateurs. On attend de voir ce qui va se passer. Et du côté des acteurs, que se passera-t-il ? Impossible de jouer certaines scènes à distance les uns des autres. Peut-être que pourront survivre les tragédies antiques ou classiques où l'amour est courtois, où les joutes sont distantes, y compris les duels. Et quel avenir pour les orchestres ? Un orchestre de 80 musiciens, disposant chacun de 4 mètres carrés, occupe déjà une place considérable que peu de scènes peuvent accepter. La symphonie des 1000, alors c'est la 8e de Mahler, nécessiterait un quart d'hectare. Si vous voulez, histoire de rentabiliser l'affaire, que le public soit au moins 2 fois plus nombreux, il faut envisager d'occuper un champ entier, un peu comme pour une rave party. Mais des solutions existent là encore. Le 19e siècle, où le piano symbolisait au fond le triomphe de la bourgeoisie, a vu se multiplier les transcriptions pour piano des symphonies. Certains compositeurs ont eux-mêmes sacrifié à cette mode. J'ai assisté à une version de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel pour juste une dizaine de musiciens. La technique moderne permet, avec un seul violoniste et un dispositif électronique, dit effet chorus, de remplacer un pupitre entier. Reste le port du masque pour les instruments avant, ça. Au plus fort du confinement, des pièces orchestrales ont été enregistrées sans que jamais les artistes ne se retrouvent ensemble. Le résultat est plutôt étonnant.